Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Vingt-septième émission de Feuilles Vives, l'été dernier nous diffusions un reportage sur le festival H2O de l'association Artesis. Une série d'événements culturels, des concerts, des performances, des expositions pour mettre en valeur la vallée de la Cisse et son environnement. La troisième édition de ce festival s'achève le 24 juin prochain. La Cisse est une rivière de plaine qui se forme au milieu de la Petite Beauce, au nord de Blois. Alimentée par des fossés et par le ruissellement de la forêt de Marche Noire, elle descend vers le sud-ouest et contourne la forêt de Blois. Arrivée à Chouzy, une partie de la Cisse se jette dans la Loire, alors que le reste longe le fleuve jusqu'à Vouvray pour rejoindre la Brenne, puis la Loire. Des plaines céréalières beauceronnes aux coteaux viticoles de Touraine, des méandres marécageux de l'Amont au chenal rectiligne de Laval, zones de production agricole, sanctuaires de la vie sauvage et bassins de population, cette diversité de milieux et d'usages questionne notre manière d'habiter, d'exploiter, de parcourir et finalement d'aménager le territoire. La gestion de la Cisse et de ses affluents réclame une coopération poussée entre la quarantaine de communes situées sur les 825 km² de son bassin versant. C'est là qu'intervient le syndicat mixte du bassin de la Cisse. Né en 2012 de la fusion de 5 syndicats de bassin, il regroupe aujourd'hui des communes à la perception et aux usages de la rivière différents les uns des autres. Ses missions, aménager le bassin versant, accompagner ses habitants et ses acteurs afin de garantir ou restaurer la qualité de l'eau, la santé écologique des milieux et, depuis le début de cette année, prévenir les inondations. Je retrouve le technicien du syndicat Ludovic Cognard et l'éleveur Olivier Gabillot à Averdon devant l'un des derniers aménagements réalisés en bord de Cisse, la restauration d'un milieu humide qui sert à la fois de pâturage, de réserve de biodiversité, de filtre anti-pollution et de zone d'expansion de crues.
Alors là, on est sur le site du grand, ce qu'on appelle le grand marais d'Averdon. Donc on est en rive droite de la Cisse. Vraisemblablement, c'est le secteur où passait la Cisse avant la création du moulin. Et ici, avant les travaux, c'était une zone fermée par la présence de peupliers sur à peu près, on va dire, un tiers du site. Et le reste, c'était des saules qui commençaient à fermer un peu le milieu et le paysage. Donc l'idée ici, ça a été déjà de supprimer tous les peupliers qui avaient été installés dans les années 70 et qui ont tendance à fermer le paysage, fermer le milieu progressivement et réduire du coup la capacité écologique du système, et notamment avec les plantes qui poussent dans les marais, qui sont pris par l'ombre des peupliers et qui n'arrivent plus à pousser. Donc l'idée, c'était de supprimer l'ensemble de ces peupliers sur environ 4 hectares, sur la partie qu'on voit là-bas au fond. Et puis ensuite, de faire une taille sélective de tous les saules qu'on avait sur le site, quoi. Donc on a maintenu tous les saules, mais on a fait en sorte que ces saules soient taillés et maintenu en petit bosquet pour que notre chère équipe d'entretien, les vaches d'Olivier, puissent faire leur boulot tout en maintenant ces saules, mais aussi en taillant l'ensemble des herbacées qui sont sur la zone humide. Donc en gros, ça fait 10 hectares de zone humide restaurée avec l'installation de clôtures et qui seront donc pâturées maintenant de manière durable avec un bail qui a été mis en place entre la mairie, propriétaire, et Olivier Gabillot, qui est donc l'utilisateur final du site.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, parce que vous parliez de restauration, pourquoi est-ce qu'une peupleraie, ça constitue une dégradation d'une zone humide ? Parce qu'on se dit, c'est des arbres, c'est bien, c'est naturel.
C'est vrai, c'est un peu l'argument qu'on nous a... qu'on nous a donné au départ, c'est en nous disant mais vous coupez les arbres, c'est quand même un petit peu antinomique par rapport à nos objectifs environnementaux. Alors moi je tiens à dire les peupliers, j'ai rien contre. Cela dit, faut quand même comprendre que d'une part les peupliers qui étaient installés là, c'était des peupliers plantés par l'homme, qui sont des hybrides, bien souvent américains. Alors j'ai pas fait de recherche sur ces peupliers là, mais ce sont des hybrides, le plus souvent des hybrides américains, qui ont tendance d'une part à pomper l'eau un peu plus que de raison. Deuxièmement, donc à créer de l'ombrage, ce qui fait que toutes les essences qui sont inféodées aux zones humides ne peuvent plus se développer. Donc on a un développement d'herbacées qui se fait au détriment des plantes dites hélophytes, donc qui poussent les pieds dans l'eau. Donc ça pose un souci d'équilibre, on va dire, écologique. Et le troisième argument qui va un petit peu à l'encontre, ça fait un peu un plaidoyer contre les peupliers, mais le troisième argument, c'est que les peupliers de type hybride américain ont du mal à se dégrader, les feuilles notamment, dans nos milieux. Ce qui en résulte un colmatage du fond, alors à la fois du cours d'eau et de la zone humide. Donc le colmatage fait que toutes les autres espèces n'arrivent plus à pousser. Et puis le quatrième argument, c'est que les hybrides américains peupliers, lorsqu'ils arrivent à se dégrader dans un temps beaucoup plus long que les essences, on va dire, autochtones, dégagent des polyphénols qui sont toxiques pour les milieux aquatiques. Donc c'est le type polyphénol, des substances chimiques qui dégradent progressivement la qualité de l'eau. Et ça, c'est comme tout, hein, quand vous avez trop de peupliers concentrés au même endroit, c'est là où il y a le déséquilibre qui se crée. Des peupliers par endroit, c'est pas un souci. Des peuplier concentrés sous forme de peupleraies, là ça pose un vrai problème environnemental. On va dire entre les années 40, enfin l'après-guerre, jusque dans les années 90, l'État, même l'État français, donnait des subventions pour l'installation de peupliers. Donc c'est vrai que c'était un des arguments de valorisation économique de ces zones qui sont pas très propices pour l'agriculture, on va dire, moderne. Voilà, l'État avait trouvé cette solution en disant on va installer des peupliers. On en est revenu quand même pas mal. Justement parce que ça pose des problèmes d'un point de vue écologique, mais aussi parce que aujourd'hui le peuplier chinois ou polonais est beaucoup plus rentable que les peupliers qui sont installés ici en France. Donc on voit, nous, sur la vallée de la Cisse, progressivement des peupleraies qui sont abattues, et puis se pose encore cette question sur ces terres-là, comment valoriser ? Alors nous, on a une des solutions, je pense, c'est de le valoriser comme c'était le cas avant-guerre, c'est-à-dire du pâturage extensif en marais.
On produit une partie de céréales sur le plateau, donc pour les porcs, pour les volailles, entre autres, et puis un peu pour les brebis aussi. Et les coteaux, maintenant, c'est principalement des prairies, donc pour le foin, et puis pour héberger les animaux l'hiver. Et puis le fond, c'est le pâturage de la belle saison, quoi. Quand l'eau est suffisamment basse, on réintroduit les animaux, et puis là c'est parti jusqu'à temps que les eaux remontent et qu'on doit ressortir des parcelles, quoi.
D'accord.
Enfin, tant qu'il y a de l'herbe. Hein. Mais bon, c'est des milieux dans lesquels l'herbe pousse en permanence, hein, de l'humidité, des temps plutôt secs, ça pousse. Hein. Tous les marais étaient considérés comme des prés, hein, dans l'histoire. Quand vous prenez toutes les vieilles cartes, tout est répertorié en prés. Hein, tout est répertorié en prés. Et à certaines époques, tous les marais avaient une valeur financière bien plus élevée que les terres sur le coteau, voire sur le plateau. C'est vraiment, tout le monde avait un lopin de marais pour récupérer les roseaux, pour faire de la litière, pour récupérer du bois, hein, tout bonnement. Hein. Tout le monde coupait un peu de bois, taillait les saules et tout. Et donc, c'était des milieux qui étaient super entretenus. Hein. Tout le monde y allait.
Il y a une double utilisation qui va être faite du site, à la fois l'élevage extensif. Donc ça, c'est une première valorisation. Et la deuxième utilisation, ça va être l'usage pour la chasse. Réservé le dimanche, il me semble. Donc c'est pour ça qu'on a créé deux parcs sur l'ensemble du site, un parc qu'on va dire hebdomadaire en fait. Les vaches vont être là toute l'année. Hein, et le dimanche, lors des périodes de chasse, les vaches sont déplacées dans l'autre site. Et donc ici, l'association de chasse locale va pouvoir chasser sur le site.
Avec des surfaces ouvertes plus importantes comme on a là maintenant, on a on devient à étape sur les migrations, quoi. On a des espèces qui ne s'arrêtaient pas, qui s'arrêtent maintenant plus facilement, quoi.
Par exemple ?
Bah, les grues cendrées, tout bonnement. On a eu quelques arrêts là, sur les tressauts ces dernières années, alors qu'avant, il arrivait qu'elles se posent dans les champs pour se reposer, mais là elles descendent carrément dans les marais pour se nourrir. Non seulement se reposer, mais se nourrir aussi, quoi. Ça, c'est assez nouveau, quand même. Et puis, des espèces comme les bécassines, on en voit beaucoup plus qu'on en voyait à une époque. Après, tout ce qui est canard, tout ça, on a beaucoup plus de ils sont beaucoup plus présents qu'avant, quoi.
Et la troisième, on va dire, valorisation, c'est aussi la valorisation, on va dire, touristique ou paysagère, puisqu'en plein milieu du site a été créé un sentier de randonnée qui va rejoindre les grands sentiers de randonnée qui se trouvent de l'autre côté de la vallée, ce qui permet de faire un trait d'union entre le bourg et puis le plateau Beauceron. Donc on passe au centre de la vallée par ce site-là.
Bah, on découvre la vallée beaucoup plus facilement, parce que quand elle est couverte, qu'elle est boisée avec des arbres qui font 15 mètres de haut,
il n'y avait pratiquement pas d'accès.
Voilà, vous avez pas, vous avez aucun accès visuel sur la vallée, donc quand ça s'ouvre là, bah, voilà, c'est... Et ça vous permet de découvrir toute la vie qu'il y a dedans aussi.
Hein. Là, il y a une randonnée qui s'est faite. Ben, les gens ont vraiment apprécié le site, le coin, comme c'était aménagé maintenant. Hein. Beaucoup plus. Oui. Ah, beaucoup plus, oui.
Alors qu'avant, ils connaissaient...
Ben, pas du tout. Puis on ne pouvait pas y accéder. Hein.
Ça a permis même à des habitants d'Averdon ou des habitants du coin depuis très longtemps de découvrir des paysages à deux pas de chez eux qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir.
Voilà. Et aux anciens de redécouvrir les paysages qu'ils avaient autrefois. Ouais. Ah bah oui, bah moi quand j'étais jeune, j'emmenais les vaches au champ dans cet endroit-là. Et voilà, le fait de rouvrir les gens, ça leur rappelle des souvenirs sur leur enfance dans ces milieux-là, quoi.
Donc il y a des panneaux qui sont prévus pour faire un peu de pédagogie sur justement la présence de l'élevage qui était historique ici dans les vallées, et puis également la pédagogie sur l'utilisation des zones humides, parce que là, on va dire la principale fonction de cette zone, c'est quand même la fonction de zone d'expansion de crue, de zone d'épuration des eaux. Vous avez en face de vous une sorte de station d'épuration à ciel ouvert. C'est des lits plantés de roseaux, mais sur 6 hectares. Donc on compte beaucoup en tant que syndicat, on compte beaucoup sur l'utilité de cette zone pour faire en sorte que l'eau parte vers l'aval de manière plus épurée que ce qu'elle était avant.
Naturellement, une rivière a tendance à sinuer, à déborder, à emprunter des bras différents d'une année sur l'autre. Tout le lit majeur, c'est-à-dire l'espace qui sépare deux coteaux, est ainsi fortement impacté par l'écoulement du cours d'eau au fil des crues et des étiages. Mais les aménagements successifs ont conduit les rivières françaises à être confinées dans leur lit mineur, c'est-à-dire l'espace qui sépare deux berges. Dès le 9e siècle, les premiers moulins sont construits en bord de Cisse. On assiste alors aux premiers travaux de déviation et de calibrage du cours d'eau. Au 18e, un chenal est creusé entre la Cisse, qui se jette dans la Loire à Chouzy, et la Petite Cisse, qui se jette à Vouvray. Les deux rivières n'en font plus qu'une, et la vaste zone marécageuse entre Chouzy et Onzain disparaît. À partir du 19e siècle, et surtout dans les années 70-80, les marais sont délaissés et les rivières françaises sont curées, recalibrées, avec plusieurs objectifs. Généraliser l'implantation humaine dans les lits majeurs, favoriser la navigation et l'utilisation de l'énergie hydraulique, servir de réceptacle au drainage des terres agricoles et enfin écouler au plus vite l'eau vers l'aval afin d'empêcher les crues en amont.
Donc, faut faire
un mouvement national de chenalisation avec des conséquences désastreuses sur la biodiversité, la qualité de l'eau et même la prévention des inondations. Car en empêchant l'eau de déborder en amont, on accélère en fait son écoulement vers l'aval, accentuant ainsi les phénomènes d'ondes de crue et conduisant donc à une montée d'autant plus rapide et imprévisible du niveau d'eau. Une situation vécue par les habitants du Val de Cisse au printemps 2016. À cette vaste entreprise d'altération morphologique des cours d'eau correspond une dégradation écologique généralisée. En effet, en confinant la rivière dans son lit mineur, c'est tout un système de zones humides autrefois en contact avec elle que l'on détruit. Et de fait, on entame la capacité de la rivière à absorber et neutraliser les pollutions humaines, notamment les résidus d'engrais azotés utilisés massivement dans l'agriculture conventionnelle. Explication de Ludovic Cognard.
Aujourd'hui, sur le bassin Loire-Bretagne, il y a 78% des masses d'eau qui ne sont pas en bon état écologique.
Ça veut dire quoi, ça, pas en bon état écologique?
Ça, ça veut dire... le premier paramètre, c'est...
L'activité humaine.
Il y a ça, mais le premier c'est la morphologie du cours d'eau. Il ne faut pas oublier que le cours d'eau a été complètement retracé, recalibré, remodifié. Et ça, pour le milieu, on ne retrouve plus après derrière les espèces qu'on devrait trouver dans ce genre de milieu. Quand vous avez une activité humaine qui est assez présente ici sur le secteur, l'agriculture, mais qu'en plus vous avez un cours d'eau qui, lui, a perdu sa qualité d'auto-épuratrice, le cours d'eau n'arrive plus à absorber le surplus de pollution. Plus vous avez de nitrates, plus les végétaux poussent, et jusqu'à un summum où, quand vous voyez en Bretagne, l'apparition d'algues vertes importantes dans les estuaires. Donc l'eau, elle a une capacité d'auto-épuration jusqu'à un certain point. Quand il y en a trop, vous avez des algues qui se développent, des algues vertes, une asphyxie du cours d'eau progressivement. Et donc après, l'oxygène qu'on trouve dans l'eau, l'oxygène dissous qui est nécessaire pour les espèces, se réduit progressivement parce que c'est mangé par les plantes aquatiques. C'est pour ça que ça nous intéresse bien d'avoir des zones humides à proximité qui, elles, jouent le rôle d'épurateur et permettent à l'eau de sortir en hiver, enfin à la sortie de l'hiver, épurée par rapport à son entrée quand elle arrive au moment des crues, quoi. On redonne au cours d'eau sa capacité d'auto-épuration. C'est ce qu'il y avait avant-guerre, quoi. Et vous faites en sorte que l'eau qui est dans le cours d'eau, qui est maintenant... Qui a changé de physionomie, puisqu'elle est, en dehors de son lit majeur, il faut faire en sorte que cette eau-là, dès qu'elle peut sortir, il faut qu'elle sorte. Moi, une zone humide, pour moi, c'est humide. C'est marqué dans le texte. Donc, une zone humide, ça doit être humide, donc ça doit pouvoir filtrer l'eau qui passe dans le cours d'eau. Les plantes qu'on appelle les hélophytes, celles qu'on voit dans les milieux ouverts, ont le plus grand pouvoir épurateur, beaucoup plus grand épurateur que, on va dire, des peupliers, des chênes, etc. Dès que vous avez des essences comme ça qui ont une croissance extrêmement rapide, et en plus c'est annuel, donc ça se régénère systématiquement. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 30 ans, on voit les lits plantés de roseaux,
les stations d'épuration,
se développent.
C'est le même principe.
Donc en fait, comment elle fait la plante? Alors, on va dire chimiquement, la plante, elle puise dans le sol l'eau et les éléments nutritifs qu'il y a dans l'eau et dans la terre. Donc, pour les nitrates par exemple, un roseau, vulgairement, va aspirer l'eau pour croître, va fixer les nitrates et va les transformer en nitrites. Les nitrites vont se minéraliser. À la mort de la plante, les nitrites vont se minéraliser, vont devenir des minéraux qui sont absolument inertes pour le cours d'eau. Donc pour le coup, plus vous avez de roseaux en lien avec le cours d'eau, alors soit en zone humide, soit en bord de cours d'eau, c'est pour ça qu'on crée aussi des banquettes qui plongent dans l'eau, c'est de façon à ce que les plantes puissent aspirer le surplus de nitrates dans le cours d'eau. Et une fois que la saison est passée, le roseau va se désagréger, minéraliser les nitrates qui se seront transformés en nitrites, Et ensuite, la pollution n'existe plus, pour le coup. Et ça, on l'a pu le vérifier sur les tresseaux, avec un abattement à 300 mètres au même moment. On a pris des mesures en amont et en aval du marais, et on a vu un abattement de 17 mg entre l'amont et l'aval. Alors, en 300 mètres, 17 mg, c'est énorme, hein, quand on sait que la norme de potabilité, c'est 50. Et là, c'était sur un marais qui faisait 4 hectares.
Donc en fait, l'idée... 17 mg par litre, comment ça se passe?
17 mg par litre, oui, pardon.
Et par rapport à une... parce que si on passe de 1017 à 1000, bon, c'est pas grand-chose, mais si on passe...
Là, en l'occurrence, c'était... je crois que c'était de 45 à 27, un truc comme ça, enfin 23, il faut faire le calcul. Mais on était à peu près à 40, voilà. Ouais. Donc c'est énorme, oui. Et là, c'est juste pour 4 hectares. Donc à... plus on va multiplier ce genre de système, et plus moi je suis convaincu que c'est pas entièrement le fait de la profession agricole qui fait qu'on a beaucoup de nitrates. Je pense que c'est aussi parce qu'on a coupé la capacité du cours d'eau à s'auto-épurer elle-même. Et moi, je crois presque, alors ça fait très politiquement correct ce que je dis, mais moi j'y crois. Je pense que c'est beaucoup lié à ça, au fait que les zones humides, d'ailleurs j'en veux pour preuve sur la Cislandaise, qui a une absence quasiment totale de zones humides restaurées, si vous voulez, c'est beaucoup plus urbanisé que sur ce secteur-là. L'activité agricole est la même dans les deux secteurs, sauf qu'ici on voit des taux de nitrate qui sont à 25, 28, 30, sur la Cislandaise, on est à 50. Et là, le facteur différent, c'est l'absence de zones humides sur la Cislandaise. Donc, moi, je pense de plus en plus à ce qu'on peut gagner la bataille de la chimie en faisant en sorte que le cours d'eau arrive à s'auto-épurer lui-même. Alors, c'est pas un droit à polluer. L'agriculture fait son boulot aussi en termes d'amélioration des pratiques. Mais pour nous, notre boulot en tant que syndicat, pour moi, c'est de faire en sorte que la rivière soit en capacité de gérer cette pollution qui arrive, qui est plus ou moins naturelle ou plus ou moins artificielle, ça dépend des endroits.
Les actions menées par le syndicat mixte du bassin de la Cisse sont financées à 20% par ses membres, les communautés de communes, à 20% par la région et à 60% par l'agence de l'eau du bassin Loire-Bretagne, qui a pour mission d'appliquer les directives européennes sur la qualité de l'eau et les nitrates. Les discours sur la biodiversité fonctionnelle et l'amélioration paysagère sont souvent mal vus par les populations locales, surtout quand ils émanent de structures lointaines composées d'experts détachés du terrain. Le syndicat mixte, composé d'élus locaux mais financé par l'agence de l'eau, la région, sur des critères nationaux et européens, tient ce rôle d'exécutant, d'intermédiaire entre un discours technique développé loin du terrain et un programme d'action très concrète qui bouscule les pratiques et les paysages familiers des habitants. On écoute Jean-Louis Slovac, président du syndicat mixte du bassin de la Cisse et élu municipal à Orchaise, une commune située au nord-ouest de la forêt de Blois.
Il faut qu'on soit aussi pédagogue parce que dans le temps, les anciens, notamment Orchaise, j'ai encore la réflexion, « Ah, tu m'ennuies avec tes trucs, t'as qu'à faire comme avant, tu viens avec l'appel Pouclin, tu racles le fond et puis ça va bien aller. » Quand on leur dit « on va faire une banquette, on fait une banquette à tel endroit », je pense par exemple le moulin d'arrivée où on a fait presque 800 mètres d'aménagement, il y avait 1,20 m de vase, je crois, c'était ça, 1 mètre, 1,20 m, et 20 cm d'eau. On a créé des banquettes, on a travaillé dessus, le jour où on a ouvert le truc et puis qu'on a laissé passer l'eau, deux jours après, il n'y avait plus de vase. Mais on n'est pas venu avec une pelle pour racler. La vase, bon, forcément, elle est partie ailleurs, mais elle suit son cours, voilà. Elle n'était plus retenue. Voilà. Et deux, trois jours après, on avait un brochet. On l'a en photo, d'ailleurs.
Ouais, là, c'était...
Hein, c'était étonnant, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il a fait.
Comment il l'avait mis.
Hein. Non. Voilà. Deux, trois jours après, on avait un brochet dans la rivière. Bon, alors qu'il y en avait depuis... Les pêcheurs ne se souvenaient pas d'avoir vu des brochets dans la rivière à cet endroit-là. Quoi. Qu'est-ce qui était venu faire là, on ne sait pas. Mais voilà, quoi. Donc, comme quoi, ce qu'on fait, c'est efficace. Quand on retrouve la grave au bout de, allez, on va dire, une semaine d'eau normale, parce que les banquettes, c'est très spectaculaire à voir, on ne change pas le débit de l'eau, on rétrécit simplement par endroit, puis on reméandre, on regarde l'eau qui était une eau stagnante, comme ici, qui ne bouge pas, et puis le fait de reméandrer, ça fait des vagues. On a l'impression qu'on a mis plus d'eau. Et ces vagues font que le courant s'accélère, et en s'accélérant, et ben ça désenvase. Donc la vie revient, et puis c'est reparti. Et...
Ouais. Ça aussi, on n'en a pas trop parlé, mais l'aspect dans la communication, c'est important. C'est, ouais. Nous, on intervient sur un milieu qui est installé depuis longtemps, quoi. Et on change l'aspect paysager, même ici, hein, l'aspect ouvert, on passe d'un milieu un peu plus forestier à un aspect ouvert. Et ça, faut expliquer, hein. C'est des choses qu'il faut expliquer par la communication. C'est important pour leur dire où on va et pourquoi il y a ce changement. Parce que le changement, ça fait toujours peur à n'importe qui, ça fait peur. Il faut qu'on explique. Alors en 10 ans de temps, on a gagné au moins, je pense, en légitimité, c'est-à-dire que maintenant, moi je le vois au bureau, on nous appelle régulièrement maintenant pour des problèmes qui à la rigueur sont presque chronophages, mais au moins ça veut dire qu'on est légitime, c'est-à-dire qu'on nous dit « Ah bah il y a mon voisin, il fait ça, ou mon voisin, il et puis ou alors qu'est-ce que je fais, j'ai une plante, là je sais pas ce que c'est, parce que, alors on se déplace. » Avant ça, on le faisait pas. Parce qu'on ne nous connaissait pas, je pense. Alors maintenant, on nous connaît un peu mieux, ou en tout cas, au moins les riverains. Je pense les riverains, après la population en général du bassin, je ne suis pas sûr qu'ils nous connaissent encore de trop, mais en tout cas, les riverains, maintenant, on voit, on a beaucoup plus d'appels qu'avant, quoi.
Et donc il y a beaucoup, la Cisse, c'est une rivière de la périphérie blésoise, assez largement. Mmh. Donc aussi bien à Verdon qu'à Chouzy, qu'à Orchèze, qu'à Chambon, etc. On a des zones pavillonnaires assez larges qui sont habitées par des gens qui habitent à la campagne, mais qui sont en fait des urbains, par leur travail, par leur sociabilité, par leur mode de consommation, etc. etc. Comment est-ce qu'on crée chez ces habitants un attachement à leur milieu ?
Il faut que les gens reviennent vers la rivière. Après-guerre, mais un peu plus qu'après-guerre, dans les années 60-70, mais tu en as parlé tout à l'heure, Olivier. Je pense que les gens, ils se sont détournés de la rivière. Alors soit ils l'ont vu comme un dépotoir exutoire d'eau, l'égout, quoi, soit ils s'en sont détournés. Moi, en tant que technicien, je pense que mon boulot, c'est de faire en sorte que les gens reviennent autour de la rivière, puis on discute. Vous voyez, ça fonctionne comme ça, il y a ça, il y a les zones inondables, les petites bêtes, voilà, à quoi ça sert. Ah, et la plupart des gens disent « Ah oui, mais je ne savais pas, effectivement, venez voir chez moi, parce que ces petites bêtes-là, j'en ai plein. » Ah bon, alors on va voir chez eux. Et puis, on se rend compte qu'il y a une plante invasive. Ah bah je savais pas. Cette plante invasive, qu'est-ce que je fais? Eh ben c'est simple, vous la coupez au pied à tel moment, mais vous enlevez la plante et vous la mettez hors. Ah bah c'est pas ce que je faisais. Et
voilà,
et
hop. Je l'achetais à l'eau.
Et progressivement, on parle de la même chose, sans avoir la même façon de voir les choses. Et c'est un peu l'idée de les faire revenir. Alors on les attire comme on peut, avec de la musique, avec des dessins, avec des poésies, des photos.
Du pâté de ragondin.
À manger. Du pâté de ragondin. Une bouteille de Vouvray, des fois.
Voilà. Une bouteille de Vouvray, des fois, et du pâté de ragondin. Ouais.
Mais ouais, l'idée, c'est qu'ils reviennent vers la rivière. Moi, quand j'étais gamin, j'allais tout le temps dans la rivière. J'ai appris à nager dans l'Indre, dans le Berry. J'ai appris à nager dans la rivière. J'ai pêché quand j'étais gamin. Je partais à l'âge de 7-8 ans avec mon vélo faire du pêcher, chercher le brochet, etc. Je commence à passer du côté obscur à 40 ans, mais moi je vois pas les gamins aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils le font pas, ça, qu'ils vont plus vers la rivière. Alors, je sais pas ce que. Oui, bon, enfin, je sais pas, mais... Et donc, et quand on a des classes et qu'on les fait revenir, et qu'on alors, avec les parents ou avec les professeurs, on leur dit, bon, on va les faire pêcher, donc il faut qu'ils viennent avec des bottes, et ils vont dans des endroits sécurisés, on les emmène dans l'eau, ils prennent les petites bêtes, ils regardent dans les boîtes loupes, après, ils font leur petit calcul pour voir quelle est l'indication que donne cette petite bête, et bien, les gamins, ils sont super contents, hein. Et ils oublient la tablette, hein, tout de suite, hein. Ils sont super contents de pouvoir aller dans l'eau. Et donc, nous, ça nous va, ça. Le fait qu'ils reviennent dans le cours d'eau, c'est déjà un premier pas pour aimer sa rivière.
Pédagogie à l'environnement, réunions publiques, mais aussi randonnées, concours de photos ou de poésie, partenariat avec des événements culturels comme le festival H2O que l'on évoquait en début d'émission, le syndicat mixte cherche à diversifier ses méthodes de communication et de légitimation auprès d'habitants qui soit rejettent le discours technique et écologique porté par la structure, soit ignore tout de son fonctionnement et souvent de son existence même. Au-delà des travaux de continuité écologique et de restauration de milieux humides, légitimité et transparence restent les principaux chantiers de ces établissements publics de l'aménagement du territoire. Avec sa documentation foisonnante disponible sur Internet et l'accent mis sur le patrimoine, l'action pédagogique et les partenariats culturels, le syndicat mixte du bassin de la Cis est sans doute sur la bonne voie. C'est la fin de cette 27e Feuille Vive. Retrouvez la Cis ce week-end et jusqu'au 24 juin avec le festival H2O de l'association Arte Cis. Retrouvez aussi cette émission et sa documentation complémentaire dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Bon week-end et à bientôt!
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mehdi, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait...